Radio Prague, les informations.
Les présidents tchèques et hongrois défendent le nucléaire, 20e anniversaire du parti ODS, et en foot, la fédération tchèque se mobilise pour sauver le Slavia Prague. Le président hongrois Pál Schmitt est arrivé à Prague ce jeudi pour une visite de 2 jours en République tchèque. Après avoir rencontré son homologue tchèque Václav Klaus au château, les deux chefs d'État ont parlé d'une voix pour dénoncer ce qu'ils nomment le rejet populiste du nucléaire suite à la catastrophe de Fukushima. Tous deux estiment que le problème du nucléaire devrait être discuté davantage lors des réunions du groupe de Visegrad qui rassemble la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne. La visite de Pál Schmitt se poursuivra vendredi où il rencontrera le premier ministre Peter Nečas et d'autres hommes politique avant de se rendre à Mielnik. Depuis 2009, la ville possède une statue de Jan Palach, l'étudiant qui s'était immolé en 1969 pour protester contre l'occupation soviétique, statue réalisée par l'artiste hongrois András Beck. Et en marge de la cérémonie d'accueil du président hongrois, 2 fausses policières chiliennes ont annoncé dans des haut-parleurs venir arrêter le président Klaus pour le vol d'un stylo lors de son récent séjour au Chili. La vidéo montrant le chef de l'État tchèque empocher un stylo devant les caméras a fait le tour du web depuis 10 jours. Les 2 fausses policières ont été arrêtées par de vrais policiers cette fois à la fin de la cérémonie. Le parti civique démocrate ODS fête son 20e anniversaire ce jeudi. L'actuel leader du parti et premier ministre Petr Nečas a lancé les célébrations dans la salle du Jofin à Prague. Václav Klaus s'est exprimé dans le cadre de cette soirée son point de vue sur la récente crise gouvernementale. Il l'a qualifié d'erreur et a accusé certains groupes d'influence au sein de l'ODS d'y avoir participé. Mirek Topolánek, ancien premier ministre, s'est également exprimé sur le sujet et a vigoureusement critiqué le parti Affaires Publiques, touché par un scandale de corruption. Il a estimé que le gouvernement de coalition avec Affaires Publiques en son sein était pire que le soutien de la social-démocratie au cabinet minoritaire de droite il y a quelques années. Les associations de personnes handicapées sont contre la réforme sociale du cabinet Nečas et le font savoir par une lettre qui lui a été adressée ce jeudi. En cause, la suppression prévue d'un certain nombre d'avantages permettant de compenser le handicap, notamment ce qu'on appelle le budget personnalisé, une allocation qui pourrait désormais être reversée aux prestataires de services et non plus à la personne handicapée directement. Autre point de discorde, la modification prévue de la carte handicapée. Pour Václav Krasa, le directeur du Conseil national des personnes handicapées, la loi est très mal écrite et les pourparlers doivent continuer. 2 pétitions ont également été envoyées au ministère des Affaires sociales. Le chef de la fédération de football tchèque, Ivan Hašek, a lancé mercredi un appel à sauver le Slavia Prague, champion national en 2008 et 2009, qui risque de se voir retirer prochainement sa licence en raison de sa situation financière précaire. Ce jeudi matin, Monsieur Hašek s'est finalement entretenu avec le supposé propriétaire du club, dont il ne connaissait pas l'identité jusqu'à hier, actuellement 10e du championnat. Au terme de la 24e journée, le Slavia Prague doit notamment quelques 112 millions de couronne à son ancien propriétaire. On finit par un mot de météo. Vendredi, jour de fête des Eugénie en français. Le ciel sera toujours clair et il fera chaud pour la saison. Les températures diurnes se situeront toujours entre 20 et 24 degrés. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Alexis Rosenzweig.
Fais événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague, avec au sommaire de notre émission aujourd'hui un retour sur la dramatique explosion dans une usine tchèque internationalement connue, puisque c'est là qu'on y fabrique l'explosif Semtex, à la triste réputation à cause de son utilisation dans des attentats terroristes. On parlera santé au suite avec un nouveau spray désormais autorisé sur le marché tchèque pour les malades de la sclérose en plaques, un spray à base de cannabis. Et dans la deuxième partie du programme, ce sera une balade touristique dans les églises de Prague et dans la cathédrale de Prague avec Magdalena Hrozinkova. Très bonne écoute à toutes et à tous. Cela faisait 27 ans qu'il n'y avait pas eu un accident aussi grave dans l'usine de la petite commune de Semtin, c'est près de Pardubice en Bohême de l'Est. La déflagration s'est produite mercredi matin, un peu avant 7h, et a fait une 10aine de blessés parmi les employés. 4 personnes ont été ensevelies sous les décombres et sont toujours portées disparues ce jeudi sans beaucoup d'espoir de les retrouver vivantes selon les sauveteurs envoyés sur place avec leurs chiens. Une enquête a été ouverte par la police. La société Explosia, filiale de la société Synthesia, a elle aussi mis en place une commission d'enquête. Jiří Simandl est le porte-parole de la société.
La commission d'enquête a terminé son inspection sur les lieux de l'accident. Elle a laissé la police faire ensuite son travail et n'a plus accès à cet endroit. Sur les 9 personnes blessées, 2 sont restées à l'hôpital. La commission d'enquête va analyser ses résultats dans les prochains jours.
L'explosion de mercredi matin a été ressentie dans toutes les communes voisines, à plusieurs kilomètres à la ronde. Le souffle a même fait voler plusieurs vitres en éclats. Mais cela n'a pas été aussi terrible que la dernière fois en 1984, raconte cette voisine, qui confie que c'est difficile psychologiquement de savoir que cette usine peut exploser à tout moment. En 1984, l'explosion avait fait 5 morts. Cette fois-ci, l'accident s'est produit dans le bâtiment de l'usine Explosia, qui fabrique l'explosif, je vous le disais, sûrement le plus connu dans le monde, le Semtex, une invention tchécoslovaque fabriquée depuis les années 60. Combinaison du nom de la commune Semtin et du mot « explosif », le Semtex doit sa triste réputation à son utilisation régulière dans des attaques terroristes et notamment dans l'attentat perpétré par des agents libyens dans un avion, un Boeing, au-dessus de Lockerbie, en Écosse. L'explosion de 1984 dans cette même usine en République tchèque qui avait brisé des vitres jusqu'à Hradec Králové, à une 20aine de kilomètres de là, n'avait pas été couverte par la presse, le régime communiste ayant tenu à taire l'incident. De rares informations avaient été publiées à l'époque concernant par exemple les heures supplémentaires des vitriers. On passe maintenant à un chapitre santé, je vous le disais en titre. La République tchèque vient d'autoriser la commercialisation du premier médicament à base de chènevi, c'est-à-dire de graines de chanvre, donc de marijuana. Il s'agit d'un spray répondant au doux nom de Sativex et qui a pour but d'aider les personnes atteintes de sclérose en plaques. La Tchéquie est seulement le 3e pays en Europe, après l'Espagne et le Royaume-Uni, à autoriser la commercialisation de cette substance. Elle reste pourtant l'un des rares pays à proscrire la culture du chanvre à des fins thérapeutiques. Plus d'infos avec Pierre Maignan.
Le spray Sativex est un médicament puissant pour atténuer les douleurs dont peuvent souffrir les malades de la sclérose en plaques. Il contient des substances addictives et sera donc privilégié pour des traitements lourds et seulement après accord d'un médecin. Selon l'Institut d'État pour le contrôle des médicaments, il pourrait trouver sa place dans les pharmacies à la fin de cette année. Il sera cependant très peu accessible car il devrait coûter environ 15 000 couronnes, soit à peu près 600 euros. Le directeur de la centrale tchèque antidrogue, Jakub Friedrich, tente d'expliquer ce prix exorbitant.
C'est en accord avec le fait que c'est la voie médicamenteuse classique qui est privilégiée pour faire en sorte que les patients n'aient pas le sentiment qu'ils peuvent s'auto-diagnostiquer.
La Tchéquie est un pays relativement tolérant vis-à-vis de l'usage récréatif du cannabis. Sa consommation a été dépénalisée et en posséder de faibles quantités, moins de 15 grammes, n'est passible que d'une amende. Aussi, cultiver moins de 5 plants de cannabis ne constitue plus, depuis janvier dernier, un crime, mais un simple délit. Pour autant, l'arrivée sur le marché de ce médicament pourrait relancer le débat en République tchèque quant à l'usage médical du chanvre. Dušan Dvořák a fondé et dirigé une clinique basée sur l'idée que le chanvre soigne. Suspendu de ses fonctions après avoir été jugé pour la culture de plus de 300 kg de cannabis, il se félicite de l'autorisation de ce spray, mais reste prudent et réaliste.
C'est bien que ce se soit passé, car maintenant il est officiel que le cannabis soigne. Mais les autorités continuent d'interdire la recherche. Depuis le début des années 2000, je demande au ministère de la Santé de me dire ce dont j'ai besoin pour pouvoir effectuer des recherches. Et ils me répondent, vous pouvez, mais nous ne pouvons pas vous autoriser à cultiver du cannabis.
Il semble au final que cette autorisation ne s'inscrive pas dans une réflexion plus poussée sur les usages thérapeutiques de la marijuana. Il s'agit d'une décision d'exception, peut-être simplement due au talent de lobbying de la société britannique qui commercialise ce produit, laquelle avait déjà obtenu au Royaume-Uni une licence lui donnant la possibilité de cultiver quelques 20 tonnes de cannabis. Le débat n'est pas aujourd'hui la priorité des politiciens tchèques. Le parti Affaires publiques, VV, a bien essayé de lancer une discussion à ce sujet, mais il y a d'autres problèmes à résoudre. Jindřich Vobořil, le coordinateur gouvernemental sur la politique en matière de drogue, parle d'un plan d'action sur 2 ans qui viserait à relancer un vrai débat sur la culture du chanvre et ses applications thérapeutiques. Il faudra encore être patient avant que puisse être mis en place une politique cohérente en matière de cannabis et de recherche médicale.
Et c'est fini pour les faits et événements aujourd'hui. On passe maintenant à la deuxième partie du programme en français de Radio Prague. Et comme tous les jeudis, c'est de tourisme dont il s'agit. En cette période festive de Pâques, le magazine touristique vous invite aujourd'hui dans la principale église du pays, la cathédrale Saint-Guy, au château de Prague. Il sera question, entre autres, de son nouveau site internet, de 4 nouvelles cloches dont la cathédrale pourrait se doter dans les prochaines années, ainsi que des festivals qui y seront organisés au printemps. Ensuite, Magdalena Hrozinkova vous en dira un peu plus sur un chemin de croix assez particulier qui se trouve dans le quartier de Lhotka. C'est dans le 4e arrondissement de Prague et c'est donc une balade touristique avec Magdalena Hrozinkova.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
La cathédrale Saint-Guy, Saint-Venceslas et Saint-Adalbert au château de Prague, joyaux de l'architecture gothique où sont inhumés les saints, les souverains et les archevêques tchèques, lieu de couronnement des princes et des rois du pays. Elle se trouve à l'emplacement de l'ancienne rotonde romane fondée au début du Xe siècle par le prince Venceslas Ier et qui abritait les reliques de Saint-Guy. La construction de la cathédrale a été initiée par le roi Jean de Luxembourg, le père de l'empereur Charles IV, la première pierre étant posée le 21 novembre 1344. L'influence française a été très marquante dans la construction de la cathédrale, comme nous le raconte l'archevêque de Prague, Dominique Duca.
C'est très important parce que notre premier architecte, Matthias Darras, c'était l'auteur de notre cathédrale, mais c'est dommage. N'existe pas cathédrale d'Arras de ce grand architecte. Mais c'est réellement dans notre cathédrale beaucoup des signes de la présence de l'Église française, parce que aussi la fondation, c'était selon vision des royaumes français, parce que Charles IV était à Paris, mais pendant sa jeunesse.
Après la mort de Mathieu Darras, c'est l'architecte Petr Parlas, âgé de 23 ans, qui modifie le projet original, ajoute de la lumière et des éléments du gothique tardif. Ravagée à plusieurs reprises, détruite par l'incendie survenu en 1541, la cathédrale demeure inachevée jusqu'au début du XXe siècle. Grâce à une collecte nationale et aux efforts des autorités du nouvel État tchécoslovaque, la cathédrale Saint-Guy a pu être inaugurée en 1929 à l'occasion du 1000e anniversaire de la mort de Saint Venceslas, même si les travaux se sont poursuivis jusqu'aux années 50. Vous avez entendu le bourdon Zikmund Sigismund, la plus grande cloche en République tchèque, haute de 2 mètres, pesant 14 tonnes et richement décorée. Il a été installé au sommet de la cathédrale Saint-Guy en 1549 et ne sonne que quelques fois par an, à Noël, à Pâques ou à des occasions exceptionnelles. Une légende dit que lorsque le bâton du bourdon se brise, ce qui est arrivé avant les inondations massives de 2002, cela annonce une catastrophe. À part Zikmund, 3 autres cloches assurent les sonneries à la cathédrale. František Skopec, membre d'une commission pour la vie culturelle dans la cathédrale, explique. La cathédrale původně měla 7 zvonů
a za první světové války přišla po 3. À l'origine, la cathédrale avait 7 cloches. Pendant la Première Guerre mondiale, elle en a perdu 3. Elles ont été réquisitionnées car le bronze était très important pour l'industrie de guerre. Ce bronze-là, dont sont faites des cloches, a la même composition partout en Europe, en France comme en Italie ou en Bohême. Ce matériel homogène était d'une grande utilité pour l'industrie de guerre, même si on ne s'en servait pas pour fabriquer des canons qui étaient pendant la Grande Guerre déjà faits d'acier. Alors, à présent, quatre cloches se trouvent à la cathédrale Saint-Guy. Elles s'appellent Zygmunt, Jan Krzyzytel, Václav et Joseph.
Il existe depuis peu de temps un projet de rétablissement des trois cloches brisées et fondées pendant la guerre de 14-18 qui s'appelait Dominik, Maria et Jezich. Son coût est évalué à plus d'un million de couronnes. Il devrait être financé par plusieurs institutions et sponsors, dont six professeurs de l'Université technique de Prague, la CVUT, František Skopac.
Cette initiative m'a très agréablement surpris. Le professeur Vlček a persuadé cinq collègues. Ils investiront chacun 30 000 couronnes dans le projet. Les 180 000 couronnes ainsi récoltées devraient en effet suffire pour faire fabriquer une cloche. Le 12 mai, ce groupe de professeurs sera reçu par l'archevêque. Au cours de cette rencontre, il devrait confirmer leur engagement.
Il y a un an, au printemps 2010, a commencé une nouvelle étape dans la vie de la cathédrale Saint-Guy. Après un litige sur le statut de la cathédrale qui a duré 20 ans, l'archevêque de Prague, Dominik Duka, et le président Václav Klaus ont signé un accord sur la gestion commune de la cathédrale par l'Église et l'État. La cathédrale s'ouvre dorénavant plus au public. Par exemple, en juillet 2011, on y organisera la première édition d'un festival international de musique d'orgue. Plus de détails sur www.varhanifestival.cz. František Skopec est l'auteur du nouveau site web de la cathédrale Saint-Guy, www.cathedralasvatehovita.cz, lancé fin mars. Les visiteurs y trouveront toutes sortes d'informations, non seulement sur la cathédrale, mais également sur le château de Prague et aussi sur la Galerie nationale. Enfin, et c'est une mauvaise nouvelle pour les touristes, depuis août 2010, l'entrée dans la cathédrale est payante. Les visiteurs doivent acheter un billet d'entrée pour le petit ou le grand circuit de visite qui les autorise évidemment à visiter d'autres monuments de l'enceinte du château de Prague. Direction maintenant le Hotka, un quartier plutôt moderne de la capitale situé dans le 4e arrondissement. Le 3 novembre 1937, l'église Notre-Dame de la Paix y a été consacrée. Le prêtre Vladimir Kelnar explique.
Cette date n'a pas été choisie par hasard. Elle est liée à un acte de barbarie, la démolition de la colonne mariale sur la place de la vieille ville de Prague, survenue début novembre 1918, donc quelques jours après la fondation de l'État tchécoslovaque indépendant. Pour réparer cet acte, il a été décidé de la construction de plusieurs églises en banlieue de Prague.
L'église de Lhotka fait donc partie de ce projet, une autre église ayant été construite dans le quartier de Košice. Entre 1973 et 1975, le sculpteur Karel Stadnik a créé pour l'église de Lhotka un chemin de croix assez particulier qui a pour thème la souffrance de l'homme à notre époque, Vladimir Kelnar.
La première station de ce chemin de croix montre par exemple un champignon atomique qui symbolise la peur des gens des guerres. Cette œuvre a trouvé de l'écho dans toute l'Europe. Par ailleurs, lorsque Mère Teresa a visité l'église de Lhotka, elle s'est reconnue sur une image, sur celle qui montre le visage de Jésus encadré par le voile de Véronique. Sous ce voile, on peut apercevoir d'autres visages, les visages de ceux qui aident les malades, les pauvres. On y retrouve alors le portrait de Mère Teresa, montré ici bien avant que son engagement soit reconnu dans le monde entier.
L'église Notre-Dame de la Paix se trouve à l'adresse 36 rue Velhotce à Prague 4.
Merci à Magdalena Hrozinková pour cette belle balade dans la cathédrale Saint-Guy de Prague et dans d'autres églises de la capitale tchèque. C'est la fin de ce programme en français de Radio Prague. On se retrouve demain pour une nouvelle émission.